et vous retrouvez
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Regard sur l'Europe et une fois n'est pas coutume sur la place pour le moins spécifique de la Suisse. La Confédération helvétique enclavée dans le massif alpin adossée au Jura, cadre d'accueil de plusieurs organisations internationales. Siège européen des Nations Unies à Genève, siège de l'Organisation Mondiale du Commerce pour n'en citer que quelques-unes. Spécifique car contrairement à d'autres pays tout autant attachés à leur indépendance ou à leur neutralité comme l'Autriche ou la Suède, la Suisse ne fait pas partie de l'Union Européenne. Et si elle en avait l'intention, ce qui est loin d'être certain, cette intention serait sans doute affaiblie par les crises que connaît l'Union européenne, à commencer par le Brexit. La Suisse, un modèle ou une source d'inspiration pour le Royaume-Uni? Pour cette édition réalisée en partenariat avec la revue Question internationale, dont les derniers numéros sont consacrés l'un à la Suisse, une autre vision de l'Europe et l'Europe entre crise et rebond, nos invités en duplex depuis les studios de Genève de la radio suisse romande, René Schwok, directeur du Global Studies Institute de l'Université de Genève et professeur au département de sciences politiques. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Yves Haine, professeur à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, chercheur associé à l'Institut français de relations internationales. Bonjour.
Bonjour.
Et Serge Sûr, rédacteur en chef de la revue Question internationale, directeur de l'annuaire français des relations internationales. Bonjour.
Bonjour.
Les négociations sur le Brexit avancent à pas irréguliers et parfois incertains. En attendant la deuxième phase des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, il y a un cas particulièrement intéressant, c'est la Suisse. La Suisse qui, si elle n'est pas membre de l'Union européenne, n'en appartient pas moins à l'espace économique européen avec lequel elle a conclu des accords bilatéraux qui l'en rapprochent et participe également à l'espace Schengen. Sur le plan économique, donc, le pays est aussi ouvert qu'il est fermé politiquement. La Suisse, René Schwok, un modèle pour le Royaume-Uni ou simplement une source d'inspiration pour ce que sera la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne?
Alors je dirais ni modèle, ni source d'inspiration, plutôt source de questionnement. Parce qu'au fond, ça fait 30 ans que les Suisses sont confrontés à ce que les Britanniques vont vivre dans la deuxième phase de leurs négociations avec l'Union européenne. C'est-à-dire comment être dans le marché intérieur de l'Union européenne sans être membre. Et nous, ça fait 30 ans qu'on se pose la question et qu'on essaye de résoudre la quadrature du cercle. Et c'est pas évident.
Alors, à la différence tout de même aussi que la Suisse n'a jamais fait partie donc de l'Union européenne et sa position est plus une position de refus ou de non-volonté d'adhésion, là où celle de Londres est celle d'un rejet. René Schwok.
Oui, mais je pense qu'on va se retrouver au même endroit à un certain moment. C'est-à-dire que le verre est vide pour les Suisses, ils l'ont rempli à moitié. Les Britanniques, ils vont le vider à moitié. Mais on va se retrouver dans la même situation. Comment être dans le marché intérieur, comment enlever les droits de douane sans être membre de l'Union européenne. Et ça va vraiment être le cœur de la négociation dans ce qu'on appelle la deuxième phase, si elle a lieu évidemment, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Serge Sûr.
Oui, moi j'aurais élargir un petit peu le propos et me demander si la Suisse est un modèle pour l'Union européenne. Parce qu'au fond, voilà un pays qui a réalisé pleinement les ambitions, les valeurs de l'Union européenne, qui sont très proches. La paix, la démocratie, la prospérité. La Suisse a réussi sur ce terrain. Et elle s'est nourrie d'ailleurs des divisions de l'Europe. Elle s'est nourrie des divisions de l'Europe puisqu'elle a été la grande bénéficiaire des deux guerres mondiales. Mmh. La neutralité lui a permis d'y échapper et d'en tirer un certain nombre de bénéfices. Et puis, elle a tiré aussi profit de la construction européenne. Elle a cette situation très particulière que les malheurs ou les bonheurs de ses voisins lui profitent. Et de ce point de vue, c'est un pays béni des dieux. Mais en même temps, on dit parfois ou on tend à dire que l'Union européenne serait une grosse Suisse. Alors c'est pas du tout. On est très éloigné parce que l'Union européenne comporte beaucoup plus de divisions, de clivages internes et n'a précisément pas réussi à être ce modèle d'intégration qu'est la Suisse, qui fait cohabiter des cultures différentes de façon harmonieuse et des cultures qui sont fortement enracinées, alors qu'on voit bien que dans l'Union européenne, ce sont autant, ou ça reste autant d'éléments de clivage. Alors l'Union européenne a de grandes vertus, de grandes qualités, mais elle n'est pas sur le modèle suisse. Quant au Brexit, il y a tout de même une différence très importante, c'est que la Suisse a en quelque sorte gravi l'escalier à moitié alors que le Royaume-Uni est en train de descendre l'escalier. Et on ne sait pas jusqu'où cette descente va aller. Alors que la Suisse a une position qui est bien stabilisée. Le Royaume-Uni, dans le cadre du Brexit, a une position extrêmement instable. Et il n'est pas du tout certain qu'on puisse arriver rapidement à la deuxième phase.
Jean-Yves.
Oui, les négociations sont extrêmement difficiles. Theresa May a un gouvernement de minorité. Les négociations mettent en question non seulement l'unité du Royaume-Uni, mais aussi, et jusqu'à présent, l'Europe a montré un visage relativement uni, mais dès qu'on va aborder la phase 2, il va y avoir des dissensions entre les pays qui sont très liés économiquement à la Grande-Bretagne et d'autres qui le sont moins. Et donc le grand défi pour les Européens dans les mois qui vont arriver, ça sera de garder un visage relativement uni. Ça sera beaucoup moins facile que dans la première phase. En Grande-Bretagne, aujourd'hui, on parle de modèle, entre guillemets, Norvège, Canada, assez peu Suisse, il faut bien le reconnaître. Ça va pas être une histoire très très heureuse, il me semble.
Alors, modèle assez peu Suisse, René Schwab, je rebondis, je me tourne vers vous. Il n'en demeure pas moins que le Royaume-Uni a fait appel à des personnalités suisses pour comprendre un petit peu la façon dont la Suisse gérait sa relation avec l'Union européenne. Il y a eu des rapports qui ont été faits. Alors finalement, on parle moins de la Suisse, il y a une raison ?
Je ne sais pas s'il y a une raison, mais ce qui est sûr, c'est que la position majoritaire au sein du gouvernement britannique, c'est de trouver une solution entre le Canada et la Norvège. C'est-à-dire une approche bilatérale, c'est exactement la Suisse, moins ambitieuse que la Norvège, qui fait partie de l'espace économique européen, plus ambitieuse que le Canada, c'est exactement la Suisse. Et ça fait 6 ans que j'ai été consulté par des missions de la Chambre des communes et le gouvernement britannique, qui sont tout à fait au courant de l'expérience suisse. Je ne parlerai pas de modèle, parce qu'il n'y aura pas de kit IKEA qu'on va pouvoir appliquer en lisant simplement le prospectus, mais grosso modo, s'ils veulent rester dans le marché intérieur et ne pas être membre de l'Union européenne, ils vont se retrouver peu ou prou dans le même genre de dilemme que la Suisse connaît depuis une trentaine d'années. Ce ne sera pas exactement la même solution qui sera trouvée, mais ce sera assez proche, assez logiquement.
Alors, même genre de dilemme que la Suisse depuis un certain nombre d'années. Mais j'aimerais, au-delà de cela, René Schwab, mieux comprendre quel est le schéma qui prévaut aujourd'hui dans la relation entre la Suisse et l'Union européenne.
Donc la Suisse n'est pas membre de l'espace économique européen puisqu'elle a refusé exactement il y a 25 ans par un référendum d'adhérer à l'espace économique européen, contrairement donc à la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, et elle a conclu dans les années 90 des accords bilatéraux qui reviennent à peu près aux mêmes mais qui sont basés sur une base sur du bilatéral, des accords sectoriels et bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, et puis qui sont beaucoup moins lourds que le mécanisme de l'espace économique européen. Il n'y a pas de cour de justice, il n'y a pas de mécanisme de surveillance, il n'y a pas une reprise quasi automatique de l'évolution du droit de l'Union européenne. Mais c'est ça les problèmes qui vont se poser au Royaume-Uni. S'il veut rester dans le marché intérieur, s'il ne veut pas de droit de douane avec l'Union européenne, il faudra trouver une solution où le Royaume-Uni accepte de reprendre l'évolution du droit de l'Union européenne sans être membre. Et pour un pays qui se veut souverainiste et qui a voté pour le Brexit pour des raisons souverainistes, c'est un sacré dilemme, c'est une aporie qui me paraît insurmontable.
Serge Sieur.
Oui, je crois que ça va être extrêmement difficile. Et il ne faut pas oublier qu'il faut un accord unanime des membres de l'Union européenne. Et s'il n'y a pas cet accord unanime, eh bien, le Brexit aura lieu de façon claire et nette. Et à ce moment-là, le Royaume-Uni sera réduit aux règles de l'OMC, c'est-à-dire aux règles d'un pays tiers. Et c'est une issue qui n'est pas du tout impossible. Parce qu'en effet, tout doit être négocié bilatéralement. Et il est clair que le Royaume-Uni ne peut pas être récompensé pour être sorti de l'Union européenne. Ce serait donner un signal extrêmement dangereux à d'autres États qui pourraient tenter de l'imiter. Outre que, il y a évidemment les problèmes de concurrence et de concurrence faussée, etc. Donc, on voit mal comment le Brexit pourrait être favorable au Royaume-Uni du point de vue de l'Union européenne. Ce qui veut dire des négociations extrêmement difficiles et un risque d'inaboutissement tout à fait clair.
Il est très fort ce risque d'inaboutissement, Jean-Yves.
Il est réel. Il est réel notamment parce que le gouvernement britannique aujourd'hui est très faible. L'ironie ultime du processus, c'est qu'à la base du Brexit, il y avait une volonté de rapatrier de la compétence, de la souveraineté au sein du Parlement britannique. Le scénario le plus probable, c'est que la Grande-Bretagne devra subir ou bénéficier des réglementations européennes, mais ne pourra pas participer à leur création ou à leur modification. Et c'est bien ça la quadrature du cercle aujourd'hui en Grande-Bretagne, parce que se pose derrière la question du marché unique, la question de l'Irlande, la question de l'Écosse, et ces deux exigences-là mettent en péril le gouvernement de Theresa May.
Alors, j'en reviens à la Suisse, parce qu'on fait le lien, hein, en tout cas ce jeu de miroir entre l'Union européenne, à laquelle elle n'appartient pas, et la Suisse sur ces deux numéros de questions internationales. René Chouoc, pourquoi cette méfiance de toujours de la Suisse vis-à-vis de l'Union européenne? Pourquoi cette distance?
Alors, il n'y a pas évidemment une seule explication, il n'y a pas de monisme explicatif, c'est bien entendu la conjonction de différents éléments. Le premier auquel on pense peu, mais c'est que peut-être que la Suisse n'a pas assez souffert, n'a pas assez connu de choc, parce que les pays fondateurs de l'Union européenne, ou les pays qui ont adhéré plus tard, qui étaient communistes, ou qui subissaient des dictatures d'extrême droite, ils ont eu des chocs, et ils ont eu le besoin de remédier à toutes ces difficultés en adhérant à l'Union européenne, et ils ont été prêts à accepter une dose de supranationalité. La Suisse, elle n'a pas connu de choc quasiment depuis plus de deux siècles, depuis l'époque de Napoléon, à part une petite guerre civile au milieu des années du 19e siècle, mais autrement, elle n'a pas eu de choc, et surtout, elle est sortie de la Deuxième Guerre mondiale renforcée à ses yeux et pas du tout affaiblie. Donc, ce premier choc qui a amené des États à adhérer à l'Union européenne et à accepter de renoncer à une partie de leur souveraineté, la Suisse ne l'a pas connu. Et puis, s'ajoute d'autres éléments comme la démocratie directe, un peu la neutralité et la prospérité économique. Pourquoi changer une équipe qui gagne, grosso modo? Pourquoi est-ce que la Suisse devrait prendre le risque de remettre en cause sa prospérité économique alors qu'elle va mieux que les autres pays de l'Union européenne? Grosso modo, c'est ce cumul de facteurs qui font que la Suisse n'a pas voulu adhérer à l'Union européenne. Et puis les inconvénients, la marginalisation de ne pas faire partie du marché intérieur a été grandement soulagée par des accords bilatéraux. Et donc, que la Suisse ne subit pas trop le fait de ne pas être membre de l'Union européenne.
Serge Sueur.
Il faut se souvenir que la construction européenne, c'était d'abord une alliance de pays vaincus. Des pays qui, à un titre ou à un autre, avaient tous été vaincus au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Pays vaincus et détruits, qui étaient à la recherche d'une autre formule, parce que il est bien clair que celle des antagonismes nationaux avait mené au désastre et à la destruction de l'Europe. Et donc, cette idée d'ailleurs remarquable, tout à fait géniale, de la construction européenne, elle a permis une sorte de renaissance et un développement de l'Europe. Elle a permis les Trente Glorieuses. La Suisse, effectivement, n'était pas du tout dans la même solution. Ça, c'est une première dans la même situation. Et la Suisse pouvait considérer qu'elle était parfaitement en mesure de poursuivre son destin seul, surtout que c'était celui de la neutralité. Alors que, à l'origine de l'Union européenne, il y avait quand même le plan Marshall et l'OTAN, c'est-à-dire la main américaine que la neutralité suisse ne voulait pas subir trop fortement. Je ne veux pas dire que la Suisse est éloignée des États-Unis, certainement pas, elle appartient au monde occidental, mais elle ne voulait certainement pas être engagée dans une alliance militaire. Et puis, il me semble aussi que la Suisse a beaucoup plus rapidement joué le jeu de la mondialisation. L'Union européenne s'est engagée avant tout dans un commerce intérieur, elle a cherché à créer son espace économique propre, alors que la Suisse est un pays qui est beaucoup plus mondialisé qu'européen, dans une certaine mesure. La Suisse, c'est l'asile du monde entier, au bon et au mauvais sens du terme. C'est-à-dire que les capitaux ont afflué de partout, et des capitaux sains ou malsains. L'Union européenne n'a pas fait cela, sauf dans quelques petits espaces.
Jean-Yvan, un commentaire?
Les Européens ont oublié qu'ils ont, lors du processus de création, bénéficié de circonstances exceptionnelles. On a pu discuter des droits de douane entre Français, Allemands, Italiens, parce que la sécurité de l'Europe de l'Ouest avait été assurée par la garantie américaine. Dès lors que cette garantie américaine est aujourd'hui moins significative, les forces centrifuges en Europe vont à nouveau se multiplier. Donc la construction européenne aujourd'hui, en raison même du système international, devient beaucoup plus délicate et beaucoup plus difficile. On dit toujours « l'Europe a fait la paix entre les pays membres ». C'est vrai, mais il faut jamais oublier que c'est la paix qui a permis l'union. Et la paix, elle a été essentiellement, comme disait Serge Sûr, américaine. C'est le plan Marshall et les missiles américains qui nous ont donné cet espace de sécurité pour engager un processus d'unification.
Alors, dans ce numéro sur la Suisse,
je crois qu'on pourrait ajouter qu'au fond, il y avait trois leaders pour la construction européenne. Il y avait la menace soviétique, qui était un leadership négatif, si je puis dire. Il y avait le leadership franco-allemand, qui était le leadership intérieur, et puis il y avait un leadership caché, qui était celui des États-Unis.
Alors, vous avez un jugement assez sévère en introduction du numéro sur la Suisse. Vous reprenez ce film de 1949, Le Troisième Homme, avec ce jugement qui est émis, un jugement sans appel sur la Suisse. Je cite, l'Italie sous les Borgia a connu 30 ans de terreur, de meurtre, de carnage, mais ça a donné Michel-Ange de Vinci et la Renaissance. La Suisse a connu la fraternité, 500 ans de démocratie et de paix, et ça a donné quoi? Le coucou. René Schwag, un commentaire?
D'abord, il paraît que le coucou n'a même pas été inventé en Suisse. C'est pire que tout. Mais dans la forêt noire. Mais plus sérieusement, je pense que c'est une boutade connue, mais qui ne reflète pas évidemment la réalité. L'histoire suisse n'a pas toujours été 500 ans de paix et de fraternité. C'est surtout à partir du 19e siècle que les choses s'améliorent. Mais rappelez-vous, avant, c'était des guerriers qui étaient souvent au service des rois de France.
Serge Sûr.
Oui, non, cette boutade, elle est due à un criminel, elle est due à Harry Lime, et je ne pense pas que le film la reprenne véritablement à son compte. Et d'ailleurs, c'est une erreur complète, parce que la Suisse a toujours été un grand foyer culturel, et le reste aujourd'hui. Il y a une vie culturelle très, très active en Suisse, et on pourrait en donner beaucoup d'exemples. Et ça fait partie d'ailleurs de la mondialisation de la Suisse. Le nombre d'écrivains, le nombre de musiciens, le nombre de créateurs qui y ont trouvé asile ou qui proviennent de son sol, c'est tout à fait important.
Et Einstein qui a été formé en Suisse.
En Suisse, absolument, oui, oui, oui. Oui, ça a toujours été un foyer intellectuel, de même que ça reste aujourd'hui, c'est toujours un foyer très vivant de recherche-développement en matière technologique. Et on se fait de la Suisse une idée un petit peu fausse en y voyant des montagnes, des loisirs, des banques, c'est vrai, mais il y a aussi une industrie qui est extrêmement active et puissante.
Alors peut-être René Schwag, un éclairage sur cette industrie suisse. On connaît les fondamentaux, certains d'entre eux, c'est l'horlogerie, c'est alors le chocolat, parce qu'il y a industrialisation d'une manière ou d'une autre, et un poids économique fort pour la Suisse, dont on dit que il est presque au niveau de l'Allemagne, là où c'est un pays dont on parle beaucoup moins.
Ah oui, tout à fait. La Suisse, c'est un produit intérieur brut annuel de 700 milliards de dollars. La France, c'est 2500 milliards. Donc la Suisse, c'est un tiers du produit intérieur brut français, avec un huitième de la population de la France. Donc c'est plus de la moitié du produit intérieur brut de la Russie, la Suisse. Et c'est pas uniquement l'industrie bancaire ou financière. L'industrie bancaire ou financière, c'est 10 à 15% au maximum du produit intérieur brut Suisse. Donc la Suisse est effectivement un producteur majeur, et quand vous dites chocolat, il faut surtout comprendre agroalimentaire, c'est Nestlé par exemple, et puis c'est toute l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, des machines-outils. C'est vrai que cette image-là, surtout en France, est très connue. Et puis un tissu industriel constitué de beaucoup de petites et moyennes entreprises, très très performantes à l'exportation. La Suisse exporte encore beaucoup plus que l'Allemagne par habitant. Et chaque année, la balance commerciale suisse est extrêmement positive.
Serge Sûr, rapidement.
Oui, je crois que tout ça se résume par une formule qu'emploie dans ce numéro l'ambassadeur Duclos, disant que la Suisse est un grand pays qui se vit comme un petit pays.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Serge Sûr, Jean-Yves Haine et René Schwag dans quelques instants.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique pour cette édition réalisée en partenariat avec la revue Questions internationales, dont les derniers numéros sont consacrés l'un à la Suisse, une autre vision de l'Europe, et l'autre, l'Europe entre crise et rebond. Nos invités en duplex depuis le studio de Genève de la radio suisse romande, René Schwock, directeur du Global Studies Institute de l'Université de Genève, professeur au département de sciences politiques et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, La construction européenne contribue-t-elle à la paix, aux presses polytechniques et universitaires romandes. Jean-Yves N., professeur à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, et Serge Sûr, rédacteur en chef de la revue Questions internationales et directeur de l'annuaire français de relations internationales. René Schwock, on a quitté la première partie de l'émission sur l'industrie suisse. Vous évoquiez l'industrie bancaire. Cette fin de semaine a été marquée par la décision prise par les ministres européens des Finances de placer la Suisse et d'autres pays, ils sont 47, sur une liste grise de pays qui se sont engagés auprès de l'Union européenne à corriger leurs pratiques fiscales. On n'aime pas beaucoup en Suisse le terme de paradis fiscal, on préfère le terme de havre fiscal, d'après ce que j'ai compris. Il n'en demeure pas moins qu'on dénonce une certaine hypocrisie suisse derrière l'affichage de la vertu, un ensemble de comportements internationalement douteux. On dénonce la rapacité financière au service d'un égoïsme profond. Comment la Suisse vit-elle ces critiques et ces dénonciations ?
En général, la Suisse vit ça très mal, et les Suisses détestent qu'on les assimile à leur place bancaire, c'est évident. Alors d'un côté, la Suisse a connu une mutation, une révolution incroyable dont les Français n'ont pas idée ces dernières années, puis d'un autre côté, on a l'impression que rien n'a vraiment changé. Alors les mutations, la révolution, c'est que la Suisse a complètement renoncé au secret bancaire et donc pratique à partir du 1er janvier 2018 l'échange automatique d'informations avec tous les États importants du monde. Et c'est une révolution, et combien de banquiers privés nous disaient il y a quelques années ce sera la fin de la place financière suisse si on supprime le secret bancaire. Mais pas du tout, la place financière suisse se porte mieux que jamais, il n'y a jamais eu autant de masse d'argent en gestion et il n'y a jamais eu autant de bénéfices pour les banques. Donc c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Puis d'un autre côté, on a bien l'impression que la Suisse restera toujours, si ce n'est un paradis fiscal, en tout cas un havre fiscal, que la Suisse trouvera de nouvelles astuces pour attirer l'argent, et pas tout à fait de manière honnête. Et c'est en ce sens-là que le fait que la Suisse figure maintenant sur la liste grise des pays douteux en matière fiscale établie par l'Union européenne énerve profondément les Suisses.
Alors la liste grise, ce n'est pas la liste noire. Il y a 17 pays placés sur la liste noire et 47 sur la liste grise. Serge Sûr.
Oui, non. À côté de la vision rousseauiste de la Suisse, il y a la vision machiavélienne qui a été exprimée par exemple par Jean Ziegler, qui est un Suisse et qui sait bien de quoi il parle. Et il y a un ouvrage classique, Une Suisse au-dessus de tout soupçon, qui est paru en 76, mais qui est réédité régulièrement. Et il y a une ou deux phrases qui sont extrêmement sanglantes. Il dit « Son impérialisme secondaire dans les pays en voie de développement, les rouages de son gouvernement visibles et ceux du pouvoir réel qu'il dissimule, son rôle de receleur des capitaux en fuite, de plaque tournante de l'activité des sociétés multinationales grâce aux admirables institutions que constituent le secret bancaire et le compte à numéro, le tout voilé dans les plis du drapeau de la Croix-Rouge et couvert par un discours de neutralité et de paix qui fait passer les seigneurs de la Banque de Genève ou de Zurich pour de pieux et inoffensifs philanthropes. » Alors j'entends bien que le secret bancaire n'existe plus, mais comme il vient d'être remarqué, il a été supprimé parce que les États-Unis ont tordu le bras à la Suisse, et dans ces conditions il n'a pas été supprimé de bonne grâce. Ça veut dire qu'on cherche toujours à y échapper et qu'il y a un jeu du chat et de la souris qui se prolonge et qui n'infirme pas les propos de Jean Ziegler.
René Schwock, quelques mots sur la politique étrangère de la Suisse. On évoquait rapidement l'OTAN tout à l'heure. La Suisse ne fait pas partie de l'OTAN. En revanche, elle est membre depuis 2002, donc de façon assez récente, membre de l'ONU, après avoir longtemps considéré que sa neutralité l'empêchait d'y participer. Deux questions, est-ce que la Suisse est un membre actif de l'ONU ? Et la Suisse appartient-elle vraiment au bloc occidental ?
Alors, c'est ça la grande originalité de la Suisse, c'est que c'est un pays totalement occidental, hein. Mais en même temps, c'est de loin le plus étrange, puisqu'il ne fait pas partie des deux principales organisations du système occidental en Europe, c'est-à-dire l'OTAN et l'Union européenne. C'est en ce sens-là qu'il est original. Alors effectivement, la Suisse a adhéré très très tardivement à l'ONU, alors même que les principales institutions de l'ONU, surtout en Europe, sont en Suisse. Mais c'est aussi dû au fait que la Suisse est le seul pays du monde à avoir voté par référendum sur l'adhésion à l'ONU. Alors ce côté occidental, mais pas membre des deux principales organisations de l'Occident, eh ben la Suisse joue avec cela, par exemple dans le dossier ukrainien. Donc elle est acceptée par la Russie parce qu'elle ne fait pas partie de l'Union européenne et de l'OTAN qui ont imposé des sanctions à la Russie, mais en même temps elle est acceptée par les Occidentaux comme intermédiaire parce que c'est quand même un pays occidental. Donc elle joue sur cette carte occidentale, mais pas partie aux deux principales organisations du monde occidental en Europe.
Et la Suisse qui, par ailleurs, est le seul pays à ne pas avoir appliqué de sanctions décidées par les États-Unis et l'Union européenne à l'encontre de la Russie suite à l'annexion de la Crimée en 2014. Serge Sûr.
Alors, pour ce qui est d'abord de l'OTAN, bien sûr, la Suisse n'est pas membre de l'OTAN, mais il faut pas oublier que la neutralité ne veut pas dire désarmement. Et au contraire, la Suisse est une puissance militaire qui compte. Elle est parfaitement capable de se défendre par elle-même et d'une armée tout à fait puissante. Deuxième chose, elle n'a pas été membre des Nations Unies pendant très longtemps. Mais ça tient à deux causes qui ne tiennent pas uniquement à la Suisse. Dans un premier temps, on n'a pas voulu de la Suisse aux Nations Unies. Parce que, et notamment l'URSS, parce que la Suisse avait voté pour l'exclusion de l'URSS, de la Société des Nations, et Staline ne le pardonnait pas à la Suisse. Et ensuite, il y avait une sorte de méfiance de principe à l'égard de la neutralité. Les Nations Unies, c'était une ligue de vainqueurs qui avait combattu contre le nazisme et le fascisme. La Suisse avait une neutralité que certains trouvaient un petit peu complaisante. On avait une image assez négative de la Suisse sur ce terrain et n'était pas jugée digne de rentrer dans la grande coalition des vainqueurs que représentait l'ONU. Et ensuite, ce sont les Suisses eux-mêmes qui ont considéré que ça les engageait trop et qu'il ne fallait pas qu'ils y aillent. Mais ça n'a jamais empêché la Suisse d'être active au sein des Nations Unies par le biais des contributions volontaires. Et par exemple, moi j'ai passé 10 ans aux Nations Unies dans un institut de recherche sur le désarmement. Il y avait un collaborateur suisse, il y avait une contribution suisse à l'UNIDIR, qui était un institut des Nations Unies. Il faut pas oublier que il y a un siège important, le siège européen de l'ONU est à Genève, ce qui quand même crée des liens assez étroits avec le pays, que la Suisse est la terre d'accueil de nombreuses organisations internationales. Et donc, là encore, nous trouvons cette ambiguïté entre y être et ne pas y être.
Alors, ambiguïté, est-ce qu'elle se retrouve effectivement sur la politique étrangère suisse? Vous évoquiez ce rejet suisse à l'égard de l'URSS. En revanche, et je me répète, pas de sanctions contre la Russie suite à l'annexion de la Crimée en 2014. Donc, la Suisse a fait son chemin. René Schwok, rapidement, il y a un fil conducteur de la politique étrangère suisse?
Oui, plus ou moins celui que j'évoquais tout à l'heure. Être occidental, mais ne pas suivre totalement les États-Unis, l'Union européenne sur la scène internationale, à moins qu'ils tapent trop fort sur la table. Donc les Suisses vont essayer de trouver quelques petites failles, de se glisser dans ces petites failles, par exemple reconnaître le Hamas et négocier avec le Hamas, qui est considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne et par les États-Unis. Ils vont essayer de jouer ce genre de petits jeux, mais jusqu'à un certain moment, et si vraiment leurs alliés occidentaux tapent trop fort du poing sur la table, eh ben, les Suisses vont se rallier.
Donc une volonté de se démarquer et d'avoir finalement sur chacun des sujets tout de même une vraie réflexion, Serge Sûr, en tout cas une réflexion.
Oui, d'avoir des positions alternatives, mais effectivement qui ne sont pas en contradiction avec les positions des pays occidentaux.
Alors, ouverture économique internationale très large, Europe à la carte, c'est un peu comme ça qu'on pourrait finalement résumer, un peu brièvement, j'en conviens, la Suisse. On évoque souvent ce pays, la Suisse, comme un modèle pour l'Union européenne. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Yves Haine. En quoi la Suisse pourrait être un modèle pour l'Union européenne?
Sur le plan de la croissance économique, de la solidarité au sein de la population suisse, quand on voit aujourd'hui les crises qui traversent les pays européens et les pays européens entre eux au sein de l'Union européenne, c'est un havre de paix qui fait envie. L'Europe doit gérer un certain nombre de crises à l'intérieur. L'euro en est une, les réfugiés en est une seconde, mais elle doit aussi gérer un certain nombre de crises à l'extérieur. Et le défi numéro un, à la fois pour le Sud et pour l'Est, c'est bien d'afficher un visage et une voix unie. C'est le défi de l'unité pour les Européens. Si la Suisse joue la différence, l'Europe, elle doit trouver une voie forte et unanime pour pouvoir, tant que ça fait ce peu, gérer les problèmes. L'Ukraine en est un particulier. La Libye en est un second qui présente des défis quasiment existentiels pour l'Union Européenne.
René Schwag.
Alors, la Suisse comme modèle, j'aime pas l'expression parce que je ne suis pas nationaliste, j'aime pas les chauvins, j'aime pas les modèles. C'est une métaphore, disons, qui est intéressante. Il y a certainement du bon et du mauvais à trouver en Suisse. Je me méfie de ceux qui disent qu'il faut que l'Union européenne devienne un État fédéral comme la Suisse. La Suisse est un État fédéral sur le modèle américain. Les cantons ont perdu énormément de leur souveraineté, de leurs compétences, en adhérant au système de 1848, à la constitution basée sur les États-Unis. Alors certes, la Suisse est beaucoup, beaucoup moins centralisée que la France, c'est évident. Et les cantons ont beaucoup plus de compétences, entre autres budgétaires et fiscales, que les régions françaises ou les départements français, ça c'est évident. Mais poser la Suisse, ou que poser les États-Unis ou l'Allemagne comme un modèle pour l'Union européenne, ce serait beaucoup trop centralisé. L'Union européenne, et ça me paraît inimaginable, c'est-à-dire que je ne peux pas imaginer que la France réduise sa souveraineté au niveau d'un Land allemand ou d'un canton suisse.
Alors l'Europe, vous le dites Serge Sûr dans ce numéro de questions internationales dont le titre est l'Europe entre crise et rebond. Vous soulignez qu'en un peu moins de 10 ans, l'Union européenne aura connu 3 crises majeures, la crise de l'euro, celle des migrants et le Brexit. Quelque chose a été atteint, dites-vous, qui touche au plus profond de ce projet. Pourquoi ces 3 crises ont-elles à ce point affecté l'Union européenne et quels vices de construction ont-elles révélé?
Alors, je crois que c'est le manque de leadership franco-allemand qui n'a pas permis à l'Union européenne d'avoir le moteur qui aurait permis de résoudre, de dépasser ces crises. Alors, ces crises, elles n'appartiennent pas au passé, elles sont toujours là. Il y a le Brexit dont on vient de parler, il y a l'euro, les problèmes de convergence se posent toujours, les problèmes de fonds se posent toujours, c'est-à-dire que comment faire une monnaie unique si on n'a pas de convergence budgétaire fiscale suffisamment assuré. Et puis il y a le défi de l'immigration massive, et on voit bien que les réponses sont en désordre et que les risques sont toujours très présents. Et puis je crois qu'il faut y ajouter maintenant, à ces 3 crises qui sont là, qui sont bien là, il faut y ajouter les difficultés de l'Allemagne, puisque au fond on vivait avec l'idée que l'Allemagne était le pôle de stabilité, le pôle un petit peu organisateur, autour de quoi le reste tournait. Et puis on voit bien que les difficultés de constitution d'un gouvernement en Allemagne, l'incertitude sur le sort de Madame Merkel, tout ça crée un affaiblissement politique, non pas économique, mais un affaiblissement politique de l'Allemagne. Et ça complique beaucoup la solution des crises, parce qu'on pensait qu'avec Emmanuel Macron, il y aurait une reviviscence du couple franco-allemand et qu'on allait retrouver une certaine dynamique. Mais il faut bien dire que Macron, qui a une vision très européenne, ben, il est très isolé en Europe. Alors, ça nous renvoie à un autre facteur, une autre donnée, qui est que l'Europe a beaucoup grossi. Et elle a grossi certainement trop vite. Les élargissements ont été faits trop rapidement et dans des conditions qui n'étaient pas satisfaisantes. Il y a vraiment trop de disparités entre les pays d'Europe centrale et puis le noyau des fondateurs de l'Union européenne. Et on voit bien que ces pays tendent à s'éloigner. Ils ne considèrent l'Europe que comme un tiroir-caisse. C'est-à-dire que on leur donne des crédits, on aide à leur développement et de façon assez efficace. Hein, la Pologne a été un grand bénéficiaire, la Tchéquie, la République tchèque également, la Hongrie, mais ils n'ont pas véritablement de solidarité européenne et ça crée un clivage qui s'ajoute à celui du Brexit et tout ça explique que l'Europe soit dans une phase non pas de décomposition, mais je dirais de déstructuration. Alors, il y a certainement besoin d'un rebond ou d'une relance, mais dans l'état actuel des choses, on ne voit pas quelles sont les forces qui pourraient l'assurer. Et j'ajoute que les opinions publiques ont été très fâcheusement impressionnées par les suites des référendums de 2005, où 2 pays s'étaient prononcés contre le projet de constitution européenne, les Pays-Bas et la France, et on a contourné ce référendum, et ça, c'est un des éléments du désamour à l'égard de la construction européenne, alors qu'elle devrait vraiment trouver ses racines dans le soutien des opinions publiques. Et là, elle l'a perdu.
Jean-Yves.
Oui, je suis tout à fait d'accord sur ce constat. La crise de l'euro, c'est vraiment la crise de l'efficacité de la gouvernance économique de l'Europe. Alors, on est un peu sorti de la crise économique, mais enfin, c'est quand il commence à faire beau qu'il faut se préparer à la prochaine tempête. Et les mécanismes institutionnels et les projets de réforme de la zone euro bloquent à peu près toujours sur les mêmes lignes de clivage, à la fois entre la France et l'Allemagne, mais plus profondément entre le nord et le sud de l'Europe. Parce que malheureusement, des conséquences de l'euro, ce n'est pas cette convergence des pays européens, mais malheureusement une divergence de plus en plus accrue entre le nord et le sud. C'est une situation qu'il faudra bien adresser. On peut pas continuer à créer plus de divisions en Europe. Même constat avec la crise des réfugiés, où, comme vous avez dit, certains pays, notamment à l'est de l'Europe, n'ont pas affiché les mêmes valeurs fondamentales que le club Europe. Hongrie a clairement marqué sa différence sur le plan des valeurs. Comment on va pouvoir remédier à ce genre de divergence? Et le paradoxe de tout ça, c'est que nous avons plus de divisions à l'intérieur de l'Europe, au moment même où le système international nous pousse vers une Europe qui est à peu près seule pour gérer les crises de son voisinage, tant à l'est qu'au sud. Il n'y a plus personne pour venir gérer les problèmes à notre porte. Les États-Unis ont autre chose à faire, ils se regardent le nombril, c'est un autre sujet, mais nous sommes tout seuls. Et ça, c'est une révolution dans les mentalités qui doit absolument s'opérer le plus rapidement possible.
René Chouac, quel regard la Suisse a-t-elle porté, porte-t-elle, sur ces crises européennes que l'on évoque depuis le début de cette émission ?
Ouais, la grande majorité des Suisses, à toutes les époques, et particulièrement récemment, se félicite de ne pas être dans l'Union européenne. On appelle ça en bon allemand une Schadenfreude, se réjouir du malheur des autres. Il faut bien constater cela, que beaucoup trop de Suisses, à mon avis, se réjouissent de cela et ne voient pas quand même tous les apports de l'Union européenne à la prospérité en Europe et aussi à la paix, à la stabilité, parce que ces pays d'Europe centrale et orientale, vous avez dit qu'ils sont rentrés trop vite dans l'Union européenne, je conteste cet élément. Je pense que s'ils n'étaient pas rentrés dans l'Union européenne, eh bien la situation serait encore plus grave et que les forces nationalistes seraient arrivées de toute façon au pouvoir en Pologne ou en Hongrie, par exemple, mais qu'elles n'auraient pas été modérées par le fait qu'elles appartiennent à l'Union européenne, qu'elles bénéficient de fonds de cohésion et de tous les efforts du marché intérieur et de la solidarité européenne. Donc je crois que l'Union européenne a contribué à la stabilité de l'Europe centrale et orientale.
Serge Sure, pour conclure, les défis pour l'Europe aujourd'hui.
C'est la solution des crises dont on a parlé. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Monsieur Schwab. Bien sûr, ces pays devaient appartenir à l'Union européenne. C'est sur le processus qu'on aurait pu être plus prudent. Il y aurait pu avoir davantage d'étapes et de conditionnalités. On aurait pu enraciner davantage les états de droit, notamment dans ces pays, et on a été un petit peu léger sur ce terrain. Donc là, j'ai une petite divergence. Mais voilà, les crises, nous les connaissons. Ce que nous ne connaissons pas, ce sont les acteurs de la solution. Alors c'est dramatique parce que l'Union européenne a été créée par des géants. Lorsqu'on voit rétrospectivement ces quelques décennies qui sont écoulées et qui ont créé une dynamique européenne, on se dit qu'on a eu affaire à des hommes d'État qui avaient des visions. Et maintenant, on a l'impression qu'elle est détruite par des nains, c'est-à-dire des personnes qui agissent petitement et qui gèrent au jour le jour des petites crises.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. René Chouac qui était en direct depuis le studio de Genève de la radio suisse romande, que nous remercions pour leur accueil. René Chouac qui est directeur du Global Studies Institute de l'Université de Genève, professeur au département de sciences politiques et auteur de La construction européenne contribue-t-elle à la paix. Jean-Yves N, professeur à la Sorbonne Nouvelle Paris 3, chercheur associé à l'Institut français de relations internationales, et Serge Sure, rédacteur en chef de la revue Questions internationales et directeur de l'annuaire français de relations internationales. Cette édition a été signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Pauline Leduc. Demain, Géopolitique sera consacrée à la question kurde.